tout le monde sur La Poc, une nouvelle édition de ce beau programme. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, c'est un invité que je connais particulièrement bien. C'est un ami à moi et je suis très heureux de l'avoir sur l'émission avec moi aujourd'hui. Et j'ai nommé Nicolas Thibault. Salut Nick!
Monsieur Gagnier!
Ah, comment est-ce qu'il va?
Ah, ça va bien, ça va mieux en fait, le début de la saison est passé.
Ça, c'est beaucoup d'ouvrages?
Ah, c'est pas le fun.
Non? On va y revenir. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de, dans le fond, un peu de découvrir un petit peu tes fonctions dans le cadre du hockey parce que tu es en ce moment dans l'équipe des communications de l'Armada de Blainville-Boisbriand, donc le club de la LHJMQ. On va regarder un petit peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à là et un petit peu, là, ça ressemble à quoi justement là, les fonctions, un jour de match, organiser les promos puis tout ça. Fait que ce sera le menu d'aujourd'hui dans l'émission de La Poc. En premier lieu, Nick, d'où te vient ton intérêt pour le hockey?
Mon intérêt pour le hockey, j'ai grandi au Québec. J'étais un petit gars. J'ai eu le plaisir d'avoir des parents qui trippaient pas beaucoup au hockey quand j'étais jeune. Pour être franc, mon père, il connaissait pas grand-chose autre que le Canadien était une équipe de la Ligue nationale. Bon, sa mère, il connaissait beaucoup plus au hockey que lui. Puis ils m'ont inscrit parce que mes cousins jouaient, puis probablement parce qu'ils étaient un petit peu jaloux qu'ils étaient bons, je pense, là, de ce que j'ai pu comprendre avec les années. Fait que j'ai joué comme pas mal tous les petits culs du Québec, là, ou même les petites filles du Québec au sport national. Puis bon an, mal an, j'étais pas bon. J'étais pas bon. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais pas obèse, mais pas loin.
Disproportionné.
Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je pense que tu le décris bien. J'étais disproportionné. J'avais une tête des épaules, puis beaucoup de surpoids. Donc, j'étais pas mauvais au hockey. J'avais des bonnes mains, mais j'avais pas le hockey sense, puis j'avais pas non plus le coup de patin qui venait avec les qualités d'un bon joueur.
T'sais. Ouais, ouais, ouais.
Fait que de fil en aiguille, j'ai joué une saison dans le 2-lettre, et je me vantais, toi, mon gars, là. Hey, je suis dans le 2C. Jusqu'à ce que mon coach me ramasse et me dise, tiens, Nick, je veux pas être méchant avec toi, mais c'était dans le 2C, c'est parce que quand tu pars, t'es dur à arrêter. C'est pour ça que t'es avec nous aujourd'hui.
Puis, il t'a-tu rappelé qu'il y avait du 2B, du 2A, du 3A? Puis...
Non, il y avait un petit peu de place quand même.
OK, c'est bon.
Fait que c'est ça. Bon, j'ai joué au hockey. Bon, ça a bien été. J'ai arrêté midget. Puis, la journée où j'ai arrêté de jouer au hockey, c'était bien simple. C'est que j'ai toujours eu, moi, la difficulté à contrôler mes émotions. Puis, au hockey, c'était pire. En fait, c'est encore comme ça aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je joue avec... avec des collègues du bureau ou avec des amis, peu importe, puis je pitche mon bâton, puis il n'y a pas rien. Là. On joue 3 contre 3, 2 goalers, je suis pas content, je pitche mon bâton. Tu vois, genre, je t'en demande quand j'étais jeune. T'sais.
OK.
Fait que, en gros, j'ai arrêté de jouer hockey une journée parce que je me suis assis avec mes parents, j'ai dit, je pense que j'aime plus ça. Je pense que c'est vrai, j'aimais plus jouer au hockey, mais je voulais quand même, et je le savais, que je voulais rester dans le giron du hockey, du sport, d'une organisation, en fait, de hockey. Puis je me suis lancé dans le journalisme. J'ai écrit un certain soir à un média que je ne savais même pas qui était basé en Europe, en France. Le média s'appelle encore, en fait, je pense que ça fonctionne encore, Hockey Hebdo. J'ai écrit un courriel à Hockey Hebdo en disant « Mon nom est Nicolas Thibault, je viens du Québec, de Saint-Constant à l'époque, en fait. Là. J'aimerais ça écrire pour vous, je veux suivre une équipe de hockey, je vais faire tout ce que vous voulez. » Puis bon, la personne... un peu naïve qui dit « Dis-moi ce que tu veux que je vais te le faire. »
Ouais, ouais, ouais.
Fait après ça...
Et avec pas de salaire ou...
Non, pas, c'est exactement pas de salaire.
Okay.
Encore plus en sachant que, bon, c'est un média qui venait... Il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui, puis je pense que c'est une très bonne façon de commencer. Là. C'est là que tu vas réaliser, puis tu vas voir justement là, les gens qui sont sérieux ou pas. Tu sais, quand tu ne fais pas de salaire, que tu te déplaces, soit en voiture, moi, quand j'ai commencé, mes parents, en bon québécois, me les fitaient tout le temps, t'sais. Fait que j'ai approché ce média-là, je leur ai dit que je voulais couvrir du hockey. Ils m'ont accrédité à l'époque à la deuxième saison de l'Armada de Blainville-Boisbriand avec le média européen. Puis ils m'ont accrédité aussi au Condor de Kanawaki, qui est les défunts Condor de Kanawaki, qui étaient dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Et j'ai commencé à couvrir ça. Là, j'étais en secondaire 5.
Hey, c'est pas tout à fait le même bout, hein. J'étais en train de penser à Google Maps, là. Fallait que tes parents veuillent, là.
Oh oui, moi je partais de Saint-Constant. Tu sais, Kalawaki, ça se faisait bien quand même. Là. Tu sais, je faisais Saint-Constant-Kalawaki, on dirait quoi, une dizaine de minutes en voiture, max. Là. Mais Boisbriand, c'était loin. Là. Puis à l'époque, tu sais, on prenait la 13, puis bon, les sorties n'étaient pas toutes là encore. Fait que non, mes parents étaient motivés à me motiver, je pense. Je sais pas trop pourquoi je peux l'expliquer, mais ils étaient vraiment dans mon projet, puis ils voyaient que j'étais sérieux. Tu sais, je pense que ça commençait là aussi. Là. Ils voyaient que je voulais faire ça, puis que ça motivait. D'ailleurs, du moment où j'ai commencé à faire ça, comme je disais, j'étais en secondaire 5, fait que j'ai fait mes demandes d'admission au cégep en journalisme, André Laurendeau. Et je me disais, moi, dans la vie, je vais être journaliste sportif.
Et que t'as échoué lamentable, non?
Ben, oui pis non. Oui, t'as raison, mais oui pis non. Parce que,
je fais ça parce que je t'ai taquine, hein, tu le sais, puis je t'aime d'amour, fait que...
Ben oui, mais on s'aime.
Je t'aime plus. Puis je trouvais ça très drôle.
Ben non, mais et t'as raison parce que j'ai commencé à étudier en journalisme. Je couvrais les Condors encore, l'Armada. Et j'ai fait, honnêtement, j'ai fait, puis je te le dis très franchement, j'ai pas peur de le dire, là, j'ai fait un an au cégep en journalisme. À la fin de la première année, donc à la fin de la deuxième session, je travaillais à cette époque-là. Bon, entre-temps, là, la Ligue de hockey junior 3 du Québec m'a offert un emploi là, qui était un petit peu au Rénoméga à l'époque. Là. J'étais coordonnateur des communications, en fait coordonnateur des réseaux sociaux pour eux. Donc je m'occupais du Facebook. Puis à l'époque, on n'avait même pas accès au Twitter. Fait que tout ce que je mettais sur Facebook, ça se mettait sur Twitter automatiquement, mais personne n'avait le code. Puis bon.
Ouais.
C'était un peu compliqué. Puis c'était ça ma job. J'allais dans les arénas. Je parlais avec les entraîneurs, je parlais avec les joueurs, je prenais des quotes là, en bon français, puis je les mettais sur Twitter. Mon but, c'était d'alimenter le Facebook et le Twitter du Junior 3 pour leur donner un peu de contenu, puis bon, pour essayer d'aller chercher des fans à gauche et à droite. Fait que je faisais le tour, là, encore là, j'avais eu ma voiture un petit peu plus tard, fait que j'allais à Sherbrooke, dans le temps, il y avait une équipe, j'allais à Princeville, Kanawaki, Montréal, bon, je faisais vraiment le tour des organisations, puis je faisais ça, puis j'aimais ça, jusqu'à ce que l'entraîneur-chef, le directeur général des Cobras de Termonde, Robert Dubuc, m'approche, parce que je saute des étapes, là, mais j'allais à l'école, c'est vrai, mais j'étais aussi, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, j'étais aussi animateur du matin à CKVL. Et en même temps, faire ça, j'avais arrangé mon horaire là, pour aller à l'école juste l'après-midi, puis je savais que je retardais bon mes crédits et tout ça, là, mais j'allais à l'école l'après-midi, je faisais le show du matin à CKVL, puis je faisais le Junior 3. Mais c'est là où tu te fais des contacts, puis après ça, ben le directeur général m'a approché pour me dire « Nicolas, j'ai un offre à te faire. J'aimerais ça que tu t'occupes des communications chez nous, des ventes de partenariats, puis des événements avec les Cobras. »
Je reviens un petit peu sur l'aspect formation parce que
ouais.
Notre modèle ici, tu sais, au Québec, puis au Canada, puis même, je te dirais, dans l'univers occidental, c'est de dire formation égale réussite. Et ouais. Tout ce qui est en dehors de ce schéma-là est mal vu. Sauf à quelques exceptions, tu sais, des gens qui, tu sais, des Mark Zuckerberg de ce monde, tu sais, des gens complètement en marge de la société, mais qui sont des exemples exponentiels de réussite, là. Toi, sans dire que t'es un Mark Zuckerberg, c'est pas ça du tout, là. C'est que, malgré que tout le monde dit, suis tel chemin, c'est de même que ça doit fonctionner, t'as accepté de prendre les opportunités quand elles se sont pointées. T'as fait ta chance, mais t'as aussi accepté de faire le saut, un pas dans une direction qui est hors norme.
Oui, puis aujourd'hui, j'en suis relativement fier. T'sais, pour faire une parenthèse, le Zuckerberg a quand même décroché d'Harvard.
Oui.
C'est quand même un gars.
Même combat. Mais,
c'est ça.
Mais c'est le fait d'accepter que le parcours ne sera pas celui de tout le monde.
Ben oui, puis je te dirais que t'as raison. Et encore aujourd'hui, j'y repense des fois. Puis c'est. Tu sais, je te mentirais de te dire qu'il n'y a pas des portes qui se sont fermées dans les dernières semaines, les dernières années pour moi, parce que j'ai pas le fameux papier dont tout le monde parle. Et je pense que c'est vrai, c'est important d'avoir ce papier-là, que ce soit ton deck ou encore ton bac. Mais oui, à l'époque, j'ai sauté dans le train parce que je me suis fait dire aussi, ça ne veut pas dire que cette occasion-là va se représenter. Puis quand j'ai, tu sais, quand au cégep, t'as quel âge? J'étais 18 ans.
Ouais, 17, 18, 19. 17, là. En fait, tu peux te rendre jusqu'à n'importe quel âge, là, parce que ouais. Cégep étant ce qu'il est, ça peut s'étirer, hein?
Ouais. Mais oui, puis tu vois, moi, quand tu sors du secondaire, t'as pas doublé d'année, rien, bon, dans la norme, là, t'as 17-18 ans, je pense.
Ouais.
Fait que moi, j'ai arrêté à 18 ans, j'ai accepté l'offre de Robert Dubuc à l'époque, que je remercie encore énormément aujourd'hui. Et t'as raison, j'ai accepté de prendre le chemin qui était pas battu finalement, parce que je me disais, j'ai toujours été un gars de challenge, je me disais, je vais essayer, je veux voir ce que je suis capable d'aller chercher sur le terrain, parce que oui, à l'école, t'apprends plein de belles affaires, t'apprends les bases, puis c'est important d'y aller, puis jamais je vais dire le contraire, puis je t'expliquerai de quoi un petit peu plus tard aussi là-dessus. Mais je me disais, il y a quand même rien de plus pertinent, je vais le dire comme ça, ou de plus vrai finalement que ce que tu vas apprendre sur le terrain puis dans le cadre de ton métier.
Mm-hmm. Je reviens à, tu parlais de ce de Hockey Express, ce fameux médium là européen.
Ouais.
Eux, des demandes comme ça, est-ce qu'il y en avait déjà eu, ou là aussi, tu sais, on parle de d'une couverture du hockey du Québec par un médium complètement à l'étranger.
Ouais.
Par un, ils ont-tu demandé ton CV? Ils ont-tu fait comme, ah, OK, t'es plein d'entrain, ça te tente, puis t'es le seul à le proposer, fait qu'on t'accepte? J'ai comme de la misère à concevoir comment est-ce que ça a pu fonctionner.
Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est quand ils ont reçu mon courriel, ils avaient déjà reçu mon CV, j'avais déjà mis, mes parents m'avaient dit, mets ça dans ton CV, mets ton CV avec le courriel, attache-les, tout ça. Ce qu'ils m'ont expliqué par après, c'est qu'un des boss de ce média-là, puis on s'entend que personne n'était payé là-dedans, il y avait juste de la pub, puis rien de plus. Fait que ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que le courriel qu'ils ont reçu de la part d'un certain Nicolas Thibault arrivait à un bon moment dans leur vie, parce que le gars, à l'époque, Laurent Labrault, venait au Québec pour parler affaires avec un de ses amis qui faisait aussi le même type de couverture au Québec. Fait que lui, il s'en venait ici, il venait rencontrer quelqu'un, c'est un concours de circonstances finalement, puis il a dit, hey, je vais aller te rencontrer, je passe au Québec dans 3-4 semaines, à telle date, on se donne rendez-vous à telle heure dans ton coin, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que je pense que c'est vraiment un concours de circonstances, il m'a rencontré, il a pris le temps de voir qui j'étais, comment je me présentais aussi, puis tout ça, puis non, il a pas dit oui tout de suite, ça a pris une couple de semaines, il est retourné en Europe, après ça, il m'a rappelé pour me dire, on va faire la démarche pour toi, pour t'accréditer à telle ou telle place, mais on va faire un suivi serré. T'sais, il me demandait les textes la soirée même du... mes deadlines là, étaient la soirée même des événements que j'allais couvrir. Ça a pris, je pense, 6 mois avant qu'il me donne les accès au site web pour moi-même publier mes textes et tout ça. Puis bon, ils corrigeaient aussi de leur côté. Fait que ça n'a pas été, comme tu dis, ils n'ont pas dit « t'es le seul au Québec ». Puis je pense même pas que c'était dans leur intérêt initial d'avoir de la couverture au Québec, parce que bon, eux, c'était vraiment la Ligue Magnus, la Division 1. Toutes les grosses équipes finalement de l'Europe, puis un peu de l'Asie, je ne me trompe pas, de la KHL. Mais non, on n'a pas sauté sur le premier venu.
Puis, ça t'amène ça à secondaire quoi, tu disais 3?
Secondaire 5.
5. Donc, ouais. Tu as 16-17 ans, TQ, accrédité, club de hockey. On s'entend, là, c'est un univers qui est quand même assez fermé, qui est assez hermétique, ouais. Et n'est pas accepté qui veut bien en claquant des doigts, là.
Exact, tout à fait.
Comment te procéder pour faire ta place? Tu t'assis d'un coin et tu demandes le code du Wi-Fi après 8 games que tu t'es présent 3 fois, genre?
Ouais, puis moi, j'étais pas... c'est un peu ça, en fait. J'étais pas le gars le plus... en fait, à la base, moi, je suis pas quelqu'un de très... Comment je vais dire ça? Je suis quelqu'un de gêné, en fait, à la base, dans ma façon d'être dans la vie. Bon, ma...
Ta personnalité.
Ma personnalité, c'est ça. Et assez gêné de nature. Et je m'assoyais, je m'informais, là, je voyais les grands noms à l'époque. Je m'assoyais à la même table que Stéphane Leroux, sa galerie de presse de l'Armada. Je voyais Michael Delancette, je voyais d'autres journalistes comme ça. Fait que Jean-François Lavé-Droulot aussi qui était là. Puis bon, je leur parlais pas, ils me parlaient pas non plus, parce que bon, j'étais un média parmi tant d'autres qui venait couvrir la game. T'sais. Puis quand je dis média, on s'entend là. Fait que oui, je voyais là, le code Wi-Fi, comme tu dis, je l'ai pas demandé à personne parce qu'il était écrit au mur. Merci l'Armada. Je me suis plugué, puis bon, je regardais ce que tout le monde faisait, là. Je regardais les tweets. J'étais pas le premier à tweeter. De toute façon, j'avais 34 personnes qui me suivaient, dont ma grand-mère puis mon chien qui avait un compte Twitter. T'sais. Fait que je tweetais un peu la même chose que sans les copier, mais j'essayais de les imiter. Puis bon, j'essayais de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Dans les scrums, là, j'étais intimidé. J'ai jamais posé une question, je pense, à Jean-François Hull, qui était l'entraîneur à l'époque, parce que je savais pas quoi dire.
Ouais.
J'ai pris Philippe Sanche une fois en entrevue à la sortie d'un match one-on-one, puis j'ai attendu qu'il finisse ses entrevues. Je le connaissais un petit peu parce qu'il avait joué avec mes cousins à l'époque. Je le connaissais un petit peu. Fait que quand il a fini ses entrevues individuelles avec les journalistes, je l'ai arrêté. Je fais, hey, on peut-tu parler 30 secondes? Il faut que je mette une phrase de toi dans mon texte parce que tu as eu quand même une bonne soirée. Puis, fait que j'étais hyper intimidé, hyper jeune, il faut le dire. Mm-hmm. Mais ouais, ça n'a pas été. C'était pas facile de faire sa place. Tu l'as dit, c'est un endroit assez fermé. Mais ça reste que aujourd'hui, tout ça m'a servi beaucoup. Puis dans le cadre de mes fonctions, mais j'en ai accepté, puis j'en accepte encore des gens qui m'approchent avec des accréditations en me disant je viens de tel média, je fais un blog, j'aimerais ça, puis bon, je fais mon devoir, mes petites recherches, puis bon, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe sur leur blog, puis qui ce soit relativement sérieux, là, mais ça me permet, en venant de ce milieu-là, en ayant fait ce parcours-là, de comprendre que c'est souvent là que tu vas savoir si la personne est sérieuse ou pas, comme je te disais tantôt dans cette démarche.
Là, à ce moment-là, t'es pas encore à la radio, tu t'es pas encore avec les Cobras de Terrebonne. Comment tu fais le switch de déjà dire ben journalisme à l'école, cégep, bye bye. Je décroche une job en radio. J'étais pas de formation nécessairement là-dedans. Bon, ouais. Nomme Morning Man. Et en prime, puis là, c'est un horaire qui est complètement mongol. De soir, en ouais, on est ces médias sociaux d'une ligue, puis éventuellement d'un club en particulier.
Quand je trouvais les Condors de Kahnawake, les Condors ont échangé un joueur avec qui je m'entendais relativement bien, qui était leur capitaine, leur assistant capitaine à l'époque. Il s'est ramassé à la Chine avec les Maroons et j'ai commencé à couvrir les Maroons en série en passant par lui en disant « Penses-tu que c'est possible que je vous couvre? » Les Condors ont été éliminés. Puis il m'a dit « Ouais, je vais parler avec le coach Jean-François Sénéchal. » Puis j'ai couvert les Maroons et à la fin de la saison, ils sont rendus en finale. À la fin de la saison, j'ai reçu un texto du président qui me dit « Je veux te rencontrer. On a une association maintenant avec la radio de CKVL, une chronique à toutes les semaines. J'aimerais ça que ce soit toi qui la fasses. » Je me fais de la radio de ma vie, moi, à l'époque. Fait que je fais comme, OK, je peux voir c'est quoi. Puis je me ramasse à rencontrer les animateurs de l'émission en question qui allaient avoir la chronique sur les Maroons de la Chine dans leur émission. Je les rencontre avec le président des Maroons. Ils ont l'air de me trouver fin, bien beau, puis bien gentil. Fait que je commence les chroniques dans leur émission. Je partais de l'école le midi. Je m'en allais dans leur émission. Je faisais la chronique. Ça a duré 3 mois et demi, je pense. Puis à la fin du 3e mois et demi, le directeur général de la radio m'approche puis me dit « Toi, faire de la radio, t'as une belle voix. Je pense que tu peux peut-être t'améliorer sur certains points. » Mais il dit « Là, je suis un peu dans le shoot. Ma fille du matin, il faut qu'elle quitte. Si je te donne le poste en remplacement pendant 2-3 semaines, t'es-tu à l'aise avec ça? » Fait que c'est là où j'ai fait, Colin, j'ai peut-être une porte qui s'ouvre en radio, en communication. OK, j'ai vraiment le goût d'essayer, je veux voir ce que ça donne. Fait que j'ai été changer mes horaires à l'école, je me suis ramassé avec Morning Man pendant 2-3 semaines, jusqu'à ce qu'il m'annonce dans l'émission du matin, un certain matin, là, qu'il m'offrait le show si ça m'intéressait. Puis bon, c'était oui de la radio communautaire, mais encore là, comme je te disais, je pense que c'est dans ces milieux-là qui sont pas les milieux professionnels. De toute façon, tu peux pas commencer dans les milieux professionnels, là. Mais dans ces petits milieux-là, je vais les appeler comme ça, où tu vois la sincérité, puis j'allais dire la sérieuxité, ça se dit tellement ça.
Non, mais on a souvent l'impression que radio communautaire égale pas radio professionnelle, alors qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. C'est même des radios qui le sont d'autant plus parce que essaye de boucler un budget quand t'as pas de source de revenus, c'est pas nécessairement évident. Ils se démènent dans, comme un diable dans l'eau bénite, année après année, donc il y a une belle créativité.
Oh, oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est là où tu vois que, comme tu dis, là, autant dans l'administration de la radio que dans les animateurs puis dans les chroniqueurs, que ceux et celles qui sont là pendant des années, qui ont la passion de faire ce qu'ils font, ben c'est là que tu réalises justement que ces gens-là, ils ont le goût de le faire puis qu'ils sont sérieux dans leur démarche.
Puis là, comment tu réussis à mixer animation d'un show du matin et le soir, couverture d'un club de la LHJQ. Écoute, je suis jamais capable de le dire parce que le logo est mal fait. Il y a un 3A quelque part. Je me demande tout le temps, je le dis-tu lui ou je le dis pas? En tout cas, ouais, avec les Cobras de Terrebonne, comment tu jongles avec cet horaire-là, les déplacements puis tout ça? Là?
Je sais pas encore.
T'étais jeune et fringant.
Ouais, puis ça n'a pas été les années. Ça a pas été les années les plus glorieuses de ma vie, je te dirais. Tu sais, moi, j'ai jamais fait attention à ma santé. Je me suis toujours foutu un peu de ce que je mangeais, comment je dormais, ce que je buvais à la limite. Puis quand je parle de boire, là, c'est pas de l'alcool.
Du lait.
Non, mais c'est vrai, du lait, du coke, du. Tu sais, peu importe. Là, quand on parle de malbouffe, là, ça a été mes années où j'ai fait OK, là, moi, j'aime ça le IW, puis j'aime ça le pub gratuit. Fait que je te dirais comment j'ai fait ça. C'est pas glorieux ce que je vais dire, là, mais. Ça m'est arrivé deux fois de m'endormir sur la route dans le trafic.
Ouf.
Parce que j'étais trop fatigué. Je me levais à des heures, comme tu dis, tu l'as vécu aussi, là, toi, la vie de Morning Man.
Oui.
T'es à 4h, 4h30, puis il faut que tu sois à station. T'as pas de recherchiste ou presque pas. Si t'en avais, toi, moi, j'en avais pas. Là.
Non, moi, j'en avais pas non plus.
Exact.
Fait que tu manges, non, tu choisis la musique, tu fais tout, là.
C'est ça. Fait que tu contrôles ton show de A à Z. Fait que ça m'est arrivé, là, je me lève à 4h30, je vais faire mon show, je suis né à 10, je suis brûlé, je retourne à Terrebonne, fait que pogne la 15, puis le stationnement métropolitain qu'on appelle communément là, la 40, là.
Mm-hmm.
Trafic, je m'endors, puis à chaque fois, là, je me rappelle, parce que je me rappelle de deux fois, ce qui me réveillait, c'était les sirènes de police. Puis les deux fois, j'ai vu des chars de police passer, ça m'a réveillé, puis là, je fais comment, faut que je me rende à Terrebonne. Fait que je me rendais à Terrebonne, puis je me rappelle, je m'étais entendu à l'époque avec le directeur général, il y avait un lit dans l'infirmerie, je me couchais là une demi-heure, 45 minutes, fallait que je fasse une sieste. Je dormais un peu en arrivant, puis après ça, je partais sur ma run. Si j'avais des billets de saison à aller livrer, j'avais des partenaires potentiels à aller rencontrer, des communiqués à faire, des textes. T'sais, là, je faisais vraiment ma job de gotcom, finalement, des combats de Terrebonne à l'époque, puis des événementiels, puis... C'est un peu comme ça que ma roue tournait. Tu sais, mais combien de fois mes parents, mes chums me l'ont dit, Nick, de un, on te voit plus. Puis de deux, tu vas finir par tomber malade parce que t'as pas une vie normale. Tu sais, t'arrêtes pas tout le temps de sa route. T'es tout le temps parti. T'es dans un aréna. Tu te lèves à 4 heures le matin. Tu dors 2-3 heures la nuit. Fait comment j'ai fait pour toffer ça, honnêtement, je sais pas. Je me rappelle que la dernière année que j'ai été à Terrebonne, je suis tombé gravement malade. J'ai fait gravement malade. Malade, là, j'ai fait une pleurésie qu'il appelle. J'avais comme de l'eau dans la cavité des poumons.
OK.
Fait que c'est comme une pneumonie qui n'avait pas été guérie. Puis j'ai été 3 semaines sur le carreau là, avec les antibiotiques. Fait que je te dirais comment j'ai fait,
C'était pas sain, là.
C'était pas sain. Fait que comment j'ai fait, je pourrais pas te dire. Est-ce que je suis fier de mon parcours et d'avoir réussi à faire ça et d'avoir relativement accompli de belles choses avec les cobras? Oui. Est-ce que je le referais moins?
Ben, peut-être pas en même temps que de la radio, mettons. Là.
C'est ça.
En faisant des choix. Là.
Pour ça, je te dis pas oui, je te dis pas non, je te dis ouais. Je le referais ouais. Mais tu sais, j'ai tellement grandi à travers ces expériences-là. Puis tu sais, j'étais jeune, j'étais immature, puis pas immature sur le plan personnel, immature au niveau professionnel. Il y a des affaires que je comprenais pas, que je faisais quand même. Il y a des affaires que je regarde encore aujourd'hui, puis je me dis, Caroline, je ferais tellement plus ça aujourd'hui parce que j'ai tellement appris dans le passé. Puis, tu sais, souvent, on va parler du Junior 3A comme étant une ligue broche à foin ou comme étant une ligue de débutants. Puis et moi, à chaque fois, je me fais l'avocat du diable en disant, excusez-moi, là, mais dans cette ligue-là, est-ce qu'il y a des affaires qui tournent pas rond? Définitivement, comme il y a des affaires qui tombent pas rond dans n'importe quelle autre ligue, et incluant la Ligue nationale de hockey. Mais c'est tellement de beaux petits bijoux qui se cachent là, autant dans les entraîneurs, autant dans le staff administratif des équipes. Tout le monde est là pour la passion de la chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour d'autres raisons, potentiellement, comme dans n'importe quelle autre ligue, puis comme dans n'importe quel métier, mais dans ces ligues-là, puis je fais le parallèle aussi avec les radios communautaires, il y a de ces gens qui sont des passionnés, des vrais, qui sont là pour les bonnes raisons. Puis je pense qu'en tant qu'amateur de sport, chose qu'on a de moins en moins au Québec, j'ai l'impression, là, il faut leur donner plus d'importance, puis il faudrait en parler davantage, que ce soit dans les médias ou encore ailleurs, parce que il y a vraiment de belles histoires qui sortent de là. Puis j'espère en faire partie d'une. Je ne suis pas un gars qui aime beaucoup parler de lui, mais je pense que j'en fais partie de ces belles histoires-là, puis il y en a plein d'autres qu'on parle pas parce que c'est Junior 3, par exemple.
T'as été combien de temps avec les Cobras de Terrebonne?
3 ans.
3 ans. Puis après ça, directement le saut dans la LHJMQ ou comment s'est fait cette transition-là?
J'ai un collègue journaliste qui... j'ai quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur quelques dossiers à l'époque qui était au Journal de Montréal, qui m'a écrit un message pendant mon show du matin, qui m'a dit « Nick, le vice-président de l'Armada cherche quelqu'un aux communications. Je pense que tu peux faire le travail. On se connaît pas beaucoup, mais on a travaillé ensemble sur certains dossiers, puis je vois que tu es passionné. Fait que appelle-les, voici son numéro. » J'ai fini par l'appeler après 2 jours de réflexion. Parce que j'étais, comme je te disais tantôt, là, j'étais un gars timide à la base, donc moi d'appeler quelqu'un pour dire ouais, vous cherchez quelqu'un, je pense que je suis votre homme, c'était plus ou moins moi. Puis c'est encore plus ou moins moi. Mais j'ai appelé mon président actuel, Mario Marois. Je lui ai dit bonjour, Monsieur Marois. Je me rappelle, là, je shakais. J'avais mon téléphone là, et je shakais comme quelqu'un qui fait du Parkinson. Là, je disais Monsieur Marois, je m'appelle Nicolas Thibault, je suis aux communications des Cobra Terrebonne. Quelqu'un m'a dit que vous cherchiez quelqu'un en communication, donc je pense que je suis votre homme, j'aimerais ça vous rencontrer. Je te jure, à ce moment-là, j'aurais aimé que ce soit un message pour pouvoir raccrocher. Malheureusement, il avait répondu. Fait qu'il m'a dit, t'es qui toi? Non, c'est pas vrai. Il m'a dit, ben Nicolas, j'attendais ton appel, viens me rencontrer, je pense que c'était 2-3 jours après. Puis c'est ça, je l'ai rencontré avec le sentiment un peu de tromper mon organisation.
Oh, un catimini?
Oui, parce que moi, je voulais pas partir de Terrebonne. Je voulais pas m'en aller, j'aimais la gang, j'aimais, tu sais, Robert Dubuc, là, c'est comme mon père adoptif. Il m'a beaucoup appris, il m'a donné des leçons de vie, des leçons professionnelles que je vais toujours me rappeler. Je souhaite à tout le monde d'avoir, autant Mario Marois actuellement, mon président, est une personne qui fait la même chose que Robert a fait pour moi à l'époque. Ils m'apprennent des affaires sur le plan personnel, dans ma vie de tous les jours, dans mes relations interpersonnelles, au niveau professionnel aussi. Je souhaite à tout le monde, dont toi, JB, d'avoir de ces personnes-là, de ces personnes fortes dans leur entourage, parce que c'est avec ces personnes-là que tu vas grandir, puis que tu vas te rappeler de souvenirs puis de conseils que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie. Puis j'avais l'impression, en allant faire cette entrevue-là avec l'Armada, de tromper Robert. De dire, hey, Colin, tu peux pas le quitter, qu'est-ce qu'il va faire après moi? Puis c'était pas méchamment, là. C'était pas je suis.
Oh non, Bob va être sans moi.
Ben non, mais oui. Puis, tu sais, c'était pas dans l'intention de dire, hey, après moi, les cobras vont mourir. Il y avait des cobras avant, il y a eu des cobras après, puis ils sont encore là, puis ils vont très bien. Mais je me disais, je peux pas faire ça, puis j'étais gêné. Je les ai rencontrés. 3-4 jours après, le vice-président m'est revenu, Mario, mon président actuel. Il m'a dit voici ce qu'on t'offre. Si ça t'intéresse, nous, on est intéressés par tes services. Puis j'ai annoncé la nouvelle à Robert. Puis après ça, ben c'est fait la transition entre mon départ des Cobra puis mon arrivée à l'Armada, puis mon départ du Junior 3 et mon arrivée dans le Junior Major aussi. Mm-hmm.
Ça ressemble à quoi? Parce que c'est pour ça que j'attendais d'avoir une introduction vers la LHJMQ pour adresser, parce que j'ai l'impression que les fonctions sont sensiblement les mêmes. Qu'est-ce que ça fait un gars de com, puis le titre exact là, que tu as en ce moment avec l'Armada, pour moi, il est flou, là, c'est gars de com. On dirait que ça fait tout. Qu'est-ce que ça fait un gars de com pour un club de hockey?
Je te dis pas une joke en disant que c'est jamais vraiment clair. Chaque organisation a quelqu'un aux communications, naturellement, mais moi, mon titre à l'Armada, là, pour répondre à ta question, c'est coordonnateur communication, marketing, événement. Donc, à l'heure où on se parle, ce que je fais avec l'Armada, c'est m'occuper du niveau communication de l'équipe, que ce soit bon relation avec les médias, que ce soit les réseaux sociaux, le site web, que ce soit les relations, je dis avec les médias, avec les entraîneurs ou encore avec les joueurs, les vidéos que l'équipe va sortir, de trouver des concours, d'être le lien entre la communauté et l'organisation. C'est aussi de m'occuper de l'image de l'équipe à l'extérieur de l'aréna et même dans l'aréna pendant les matchs, par exemple. Fait que, honnêtement, on a une petite fraternité, là. On a un petit groupe Facebook là, sur Facebook, justement, puis on se dit toujours que notre job devrait finir par toute autre tâche connexe. Là. Parce que on fait pas juste des communications ou juste du marketing ou juste d'événementiel. parce qu'on est tous des petites équipes dans le junior majeur, c'est la réalité justement de la LHJMQ, puis c'est partout pareil. Mm-hmm. Que tu parles des Remparts de Québec, oui, ils sont peut-être un peu plus, mais ils sont pas assez pour tout ce qu'ils doivent, pour tout ce qu'ils font. La même chose à Sherbrooke, la même chose à Bécomo, la même chose à Rouen, la même chose chez nous à l'Armada. On est des petites équipes, puis on se doit de faire une panoplie de choses. C'est quand tu vois un concours sortir, et je prendrai pas le crédit sur tout ce qui se passe, bien au contraire, là, j'ai, dans le bureau administratif de l'Armada, là, on est 5.
OK.
On a notre président, il y a moi, il y a notre contrôleur financier, directeur administratif, il y a...
ça, c'est le gars qui dit non, hein. Quand tu lances un projet, pas une idée, il fait non.
Mais il est fin, il est vraiment fin. Il faut juste que tu lui poses ces idées-là à Bradja.
Ouais, c'est ça.
Là, il dit non, mais il dit non avant que tu commences parce qu'il dit « je travaille pas en ce moment, fait que parle-moi pas de ça ». Fait que il y a l'adjointe administrative aussi qui est là. Fait que on est 4, des fois 5, tout dépendant là, du moment de la semaine, je te dirais. Là. Parce qu'on a quelqu'un qui vend aussi sur la route. Fait que on est des petites équipes, on a des meetings relativement basés début et milieu de semaine. Parce qu'en vers la fin de la semaine, on joue des matchs habituellement le vendredi samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Donc, on se rencontre pour se lancer des idées, pour se dire, bon, ben là, cette semaine, on a deux matchs. Voici les assistances qui sont pour l'instant au tableau. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Y a-t-il des promos qu'on peut sortir? Y a-t-il telle affaire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vraiment un gros débriefing, finalement, là, sur ce qui s'en vient, puis sur ce que l'organisation doit faire. Mais pour ce qui est de ma job à moi, là, je te dirais que c'est vraiment une giblotte de plein de trucs. Tu sais, c'est de ramasser des dossiers qu'on doit récupérer, qu'on doit faire. Autant au niveau communication, comme je te disais, je m'occupe des événements aussi. Fait que les événements où l'Armada participe, je te donne un exemple, cet été, on a participé à plein d'événements sur la route, que ce soit le Petit Fest du Nord à Saint-Jérôme, que ce soit des fêtes de quartier, que ce soit des associations de hockey mineur ou de baseball mineur qui organisaient des événements à gauche et à droite. Ben, où on va, qu'est-ce qu'on met, est-ce que notre mascotte va être là, de coordonner la présence de qui va être là, tout ça c'est mon travail. Et par la suite, ben pendant les matchs, je m'occupe de tout ce qui est... tu sais, j'ai pas le contrôle sur la partie droite, ce qui va se passer sur la glace, ça je le sens les entraîneurs, mais moi j'ai contrôle sur ce qui va se passer dans les estrades, les jeux pendant les pauses, les jeux sur la patinoire après les périodes. Ce qui va se mettre à l'écran, ben je propose des trucs à mon gars de régie qui lui gère tout ça avec ses ordinateurs dans la régie. Si j'ai des demandes spéciales à faire à mon DJ ou à mon annonceur maison ou mon animateur de foule, ben je coordonne tout ça, je fais les pacing qu'on appelle en bon français là, d'avant-match, les textes protocolaires et tout ça, les tapis protocolaires aussi, il faut que je les organise, je fasse des invitations aux bonnes personnes. Fait que c'est un peu tout ça, là, je te dirais, là. Qu'on doit faire en tant que personne de communication et marketing d'une équipe de hockey junior, mais c'est tout autre tâche connexe aussi.
Ouais. J'ai eu l'occasion à quelques moments de te voir sur la job. Tu m'as donné des billets. C'est vraiment très apprécié.
J'attends encore le paiement. Hein?
Ouais, non, je sais. Mais tu sais, il y a le mot « donner » dans la phrase qui était bien important. Puis, ce vers quoi je m'en vais, c'est que vraiment, là, t'es une poule pas de tête. Quand c'est durant un match, là, tu sais, le spectateur a l'impression qu'il se passe juste une affaire, ça lasse. Mais ouais. Non, tu sais, il y a des pauses, il y a des arrêts de jeu, il y a des périodes, il y a des entre-périodes. T'as mille et une affaires, t'as la Zamboni, la mascotte. Te dire bonjour, te saluer durant une game, là, c'est un exploit. Ça doit être dur ses nerfs les premières fois parce que il y a tellement d'affaires à gérer. Là, tu dois être habitué, tu dois avoir ton rythme de game, mais ça doit être l'enfer les premiers matchs.
Ouais, il y a deux aspects à cette affirmation-là de ta part. D'un, t'as raison, les premières games que j'ai fait dans le junior majeur, mon boss m'a rencontré, là, mon vice-président à l'époque, mon président maintenant. Il m'a rencontré après 4 games puis il m'a dit « Là, Nick, tu vas te calmer parce que tu ne t'offreras pas la saison. » Il dit « D'un, comme tu as dit, tu es une poule pas de tête, tu cours partout, ça a l'air fou. » Puis de deux, moi, mes moments de plaisir, il me disait ça, là, il dit « Moi, mes moments de plaisir, c'est les matchs. » Puis il dit « Là, tu m'enlèves mon plaisir parce que tu es trop nerveux. Tu arrêtes d'être nerveux. » Là. C'est une question de préparation. Et je fais le pont finalement avec le deuxième aspect. Moi, dans la vie, là, je pensais que tu allais me demander tantôt et peut-être que ça s'en venait, là, les qualités de quelqu'un qui veut faire ma job. Okay? Il y a des qualités que j'ai pas, mais je le fais quand même, ce travail-là. Et dans les qualités que j'ai pas, c'est la préparation et l'organisation. Moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui aime ça dire le 27 juillet 2019, on a un souper à Rosemère. Je vais checker d'avance Google Maps pour savoir si la route est bloquée. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. En fait, je ne prends pas le temps de faire ça. Si la route est bloquée, c'est un signe de la vie. Je reviens de bord, on n'ira pas souper. Et anyway, c'était chez mes beaux-parents, elle ne tentait pas.
Bon, tu vois, il y a des signes des fois dans la vie.
C'est ça. Fait que dans la vie, tous les jours, je suis comme ça. Moi, j'étais un gars, j'ai une qualité, j'étais un gars très, comment dire, transparent. Okay? Ce qui veut dire que si je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça à job. Fait que je suis pas un gars hyper préparé. Okay? Puis je le sais, tu regardes mon bureau, tu fais, OK, ce gars-là est un gars désorganisé. À ma défense, j'ai fait le tour des organisations de la Ligue.
Ils sont tous désorganisés.
Fait que si la Ligue va mal, c'est de notre faute. C'est pas vrai. Non, mais c'est ça pour dire que ça a l'air que c'est une qualité, finalement, de ne pas être organisé. Parce que, tu l'as dit tantôt, c'est un milieu où c'est hyper créatif. Puis, je suis pas en train de dire que les gens organisés sont pas créatifs. Au contraire, mais je pense qu'il faut tout être TDA. Ça, c'est sûr. Et quand tu es TDA, définitivement, tu as un côté créatif. J'ai eu ça quelque part à un moment donné. C'était parce que j'ai voulu lire ce que je voulais lire. Justement.
Ouais, j'ai cette impression-là. Mais... Disons qu'on ne prendra pas ça comme une étude scientifique de la chose.
Ouais, mais ça finissait par point à faire. Fait que c'est correct.
Ouais, OK, c'est bon.
mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas un gars organisé nécessairement dans la vie. Oui, j'ai de l'organisation, mais je ne suis pas le plus organisé. Fait que, c'est peut-être un peu à cause de ça que je cours beaucoup dans une game. Puis, mais tu sais, moi, c'est ma marque de commerce, entre guillemets. Là. Je suis à l'aise avec ça, j'ai besoin de bouger et j'ai de la difficulté quand je suis arrêté à comprendre. J'ai l'impression quand je m'arrête là, que je, parce que j'ai oublié de faire de quoi. Aussi simple que ça. Fait qu'il faut toujours que je bouge, faut toujours que je parle avec quelqu'un pour lui dire parfait, es-tu correct, es-tu. Et c'est comme ça. Puis les partisans me connaissent maintenant, ils savent comment je suis, ils me parlent plus. Fait que, tu sais, t'as raison, c'est difficile de me voir dans un aréna, puis c'est comme ça pour tous les gens qui font mon travail, parce que j'en parle régulièrement avec mes homologues, autant de Rouen que de Bécormeau que de Québec, puis je te dirais que t'as raison dans ce que tu disais, les partisans pensent que juste un match de hockey, oui, c'est vrai que vous payez pour le match de hockey quand vous allez voir un match, mais il y a aussi tout ce qu'on essaie de créer alentour, tu sais, l'ambiance, les jeux, le divertissement, parce qu'aujourd'hui, une équipe de hockey junior, en tout cas, je vais parler pour nous, on ne peut plus vendre seulement une game de hockey. Parce que de vendre seulement une game de hockey, c'est finalement de se tirer dans le pied. Mm-hmm. Faut que tu vends un game experience, il faut que tu essaies d'amener des nouvelles affaires à ta saison, à ta présentation de match, à ton expérience quand tu vas venir. Faut que ça devienne une expérience finalement pour les partisans. Je pense qu'on le fait bien chez nous à l'Armada. Est-ce qu'il y a des points qu'on peut améliorer définitivement? C'est toujours une question de budget, c'est sûr, mais par la suite, reste toujours à prendre les commentaires des partisans et de voir ce qu'on peut améliorer, mais t'as raison sur toute la ligne, je suis une poule pas de tête dans mon métier, puis j'aime ça. J'aime ça, j'ai toujours voulu être une poule.
Oui, il y a une affaire que t'as dit, tu vois, ça va t'avoir semblé anodin, mais ça fait à quelques occasions que tu dis « chez nous à l'Armada ».
Ouais.
Et pour moi, c'est extrêmement révélateur de la place que ce travail-là prend dans ta vie, puis comment est-ce que je suis convaincu qu'à plus d'un niveau, c'est plus qu'une job. C'est pas c'est plus qu'une job dans le sens positif de la chose. Il y a un côté passionnel dans tout ça.
T'es obligé. Si tu sais, moi, je me dis dans la vie, si tu fais quelque chose que t'aimes. Tu regarderas jamais les heures, tu te plaindras jamais de ce qui se passe dans ton travail et tout ça. Et oui, ça arrive qu'il y a des moments difficiles. Tu sais, le début de saison, je te dis tantôt, là, que tu m'as demandé comment ça va en ouverture d'émission. Ça va mieux, oui, parce que le début de saison est passé. Il y a des moments durs, les séries, c'est plus tough. Tu sais, je te cacherai pas, là, dans les dernières semaines, au moment où on enregistre ça, dans les dernières semaines, on n'était pas parlable au bureau. Là. Quand les partisans rentraient, quand les collègues rentrés ou même entre nous autres, on voulait pas se parler, on s'aimait plus, c'est dur sur le moral, c'est dur sur la préparation, faut que tout soit prêt. on veut faire un beau show d'ouverture, on veut... Fait que oui, il y a des moments tough, mais à la base, on est tous des passionnés. J'en suis un. Je regarde pas les heures que je travaille. Serge non plus, mon collègue, Mario non plus, Gabriel non plus. C'est la base de ce que tu fais. Puis je pense que c'est ça pour tous les métiers du monde. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu le fais pour la paye, à un moment donné, ça te rattrape. Puis à un moment donné, tu vas soit, c'est triste à dire, mais soit te faire congédier ou soit t'en aller en burn-out ou en peu importe quoi parce que tu ne fais pas ça pour les bonnes raisons. Et c'est ça qui est important. Tu, oui, ça prend plus. Moi, le pauvre, là, si je ne faisais pas cette job-là aujourd'hui, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Parce que je ne vois que ça. Tu sais, en ce moment, je suis pas en couple. Puis je ne vois pas comment je pourrais être en couple demain matin parce que je pense que je serais obligé de délaisser ma relation ou mon travail parce que pour plein de raisons, là, je suis pas un gars organisé, je te le disais, puis bon, plein de trucs comme ça, mais j'aurais l'impression de pas être à 100% dans un des deux. Puis autant je voudrais pas l'être avec ma future copine, autant je voudrais pas l'être avec mon travail non plus parce que j'y dois du respect puis je l'aime d'amour. T'sais.
Parle-nous de ce fameux premier match. Qu'est-ce qui était stressant de même? Qu'est-ce qui faisait que tout le monde était sur les dents? Puis c'est quoi comme délivrance que ça soit finalement derrière vous autres?
Ben là, il n'est pas tout à fait fini. Pour être franc avec toi, là. Vous l'avez tous déjà vu, là. Vous l'avez vu à la télé ou encore dans les journaux. Notre match d'ouverture a été stoppé à 9 minutes 1 seconde de la deuxième période. Parce qu'il y avait trop de condensation sur la patinoire, du brouillard, puis bon, c'était rendu dangereux sur la glace. Fait que les officiels, les autorités de la ligue.
Avez-vous fait ça au vieux Bob?
Non, mais l'année passée. l'année passée, ça nous est arrivé au vieux Bob, par contre. Là, c'était à notre pool. Mais je sais pas si tu as vu aujourd'hui, j'ai posté quelque chose.
Oui, je l'ai vu, ouais.
Fait que tu sais, il faut en rire plus qu'en pleurer, là.
Ouais.
Mais ceci dit, ce qui est stressant dans un match d'ouverture, c'est. Une nouvelle saison, tu veux démontrer de nouvelles affaires à tes partisans, tu as une présentation des joueurs à faire, tu veux pas oublier personne dans ton organisation. Souvent, quand la saison recommence, ben, tu as des nouvelles personnes, fait que tu veux que ce soit bien pour eux autres. Tu as de la paperasse à faire en marge de ce match-là, justement, parce que tu as des présentations protocolaires. Pendant la saison, tu as eu 1 million d'idées sur ce que tu voulais ajouter dans ton game experience. Fait que tu veux t'assurer que ce soit là. Est-ce que tout est prêt? La publicité dans l'aréna, je m'en occupe pas vraiment, mais ça reste que tout le monde est obligé de s'en occuper un petit bout quand même. Fait que est-ce que tout est placé? Les partenaires ont-ils toutes leurs affiches à gauche et à droite qui ont payé finalement à titre de partenariat? Que ce soit sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a des gens qui achètent des trucs sur nos réseaux sociaux, sur notre site web. Fait que c'est tout ça. T'sais, c'est un mélange de plein de dossiers. Il y a des gens qui sont partis en vacances pendant l'été, fait que veux, veux pas, ben quand tu prends une semaine ou 2 semaines de vacances, ben ça reste que tu dois mettre de côté certaines affaires. Fait que là, il faut que tu les rattrapes par la suite, fait que ça met du retard dans plein de trucs. Puis on dirait que dans notre milieu, en fait, j'en connais pas d'autres des milieux, mais dans notre milieu, là, tout le monde se réveille en même temps. Le hockey, ça tombe mort quand ton équipe est éliminée. Mais quand ton équipe là, commence à mettre de la pub sur Facebook, puis recommence à mettre des trucs un peu partout dans la ville. Là, tout le monde se réveille. Hey, c'est vrai, moi, la Ronda, faut que je leur parle, là. Je veux telle affaire, je veux jamais. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde te réveille. Puis là, jusqu'à il y a 3 heures, là, JB, j'avais 92 courriels pas ouverts. Et
petite,
à chaque soir.
Une petite journée.
Une petite. Ben oui, puis non, gars, on parle de 2 semaines, là. Puis à chaque soir, je me couchais en me disant, demain, 6h30, je me lève, je fais mes courriels, ça va être vidé. Ouais, c'est ça. De 1, je snoozais jusqu'à 8 heures. De 2, dès que j'en faisais 10, de 1, je me tannais, puis de 2, il y en a 10 autres qui rentraient. Fait que, tu sais, mon conseil là-dessus, c'est si jamais vous m'écrivez un courriel, puis je vous réponds, si je vous dis pas, répondez-moi dans les prochaines minutes, répondez-moi jamais. S'il vous plaît, je te jure, là, j'étais vraiment sur le bout de pitcher mon ordi tantôt, là, j'étais plus capable. Mais là, bonne nouvelle, j'ai tout vidé.
Oh, cool.
Ben, je ne les ai pas lus.
Non, c'est ça.
Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est toutes les nouveautés qu'il faut mettre à jour, mais qu'il faut mettre de l'avant. C'est toutes les idées que tu as eues pendant la saison. C'est toutes les idées qu'on se lance. Puis chez nous, on est une équipe bien ben dynamique. On est une équipe qui se lance beaucoup de trucs très proactifs. Fait que c'est difficile de tout noter. Parce que moi, je suis pas un gars qui note tout. Fait que je me dis tout le temps que j'ai une bonne mémoire. Puis je la teste. Hein. Je me dis, à un moment donné, il m'envoie le dessus sur elle. Puis il a fini par oublier que j'ai dit ça. T'sais.
Ouais.
Fait que on est une équipe qui se lance beaucoup d'idées. Fait que ça fait en sorte que c'est toujours un peu plus stressant quand on arrive au deadline. T'sais. Fait que voilà, pour le match d'ouverture, c'était pas mal ça, là, les présentations, les protocoles.
Ouais. L'année dernière, il y a quelque chose qui a shaké pas mal le hockey, là, c'est l'histoire des Broncos de Humboldt. Je veux un petit peu comment est-ce que tu sais la solidarité entre les clubs, le fait de rendre hommage, tu sais, il y a une occasion qui est spéciale, mais pas positivement, mais tu n'as comme pas le choix de l'adresser non plus. Comment ces événements-là, il y a des célébrations un peu à différents moments dans une saison, comment est-ce que vous organisez ça pour un club comme l'Armada?
Dans le cas de Humboldt, ça a été ça a frappé l'imaginaire. Hein. Fait que ça a vraiment été quelque chose pour nous qui nous a heurté. Moi, pour être franc avec toi, la situation, je l'ai pas su. L'histoire est arrivée que on finissait un match en série contre Moncton. L'année passée, il y a un de mes collègues, là, notre responsable des pensions, est arrivé en me disant « T'as-tu vu ce qui est arrivé en Saskatchewan? » Je dis « Non, qu'est-ce qui est arrivé en Saskatchewan? » Je sais même pas ce qui est arrivé à Drummond. Pourquoi je saurais ce qui est arrivé là? Il m'a dit « Non, c'est vraiment important, là, vérifie ça. » Il m'a envoyé le lien, j'ai vérifié l'histoire. Puis du moment où j'ai compris qu'il y a une équipe de hockey qui avait été décimée par un accident comme celui-là, je te jure, là, j'étais assis. Mais les jambes m'ont coupé. Je me suis mis à penser à hey, ça aurait pu être nous autres. Nous autres aussi, on prend l'autobus. Puis bon, mon coach à l'époque en a fait des entrevues là-dessus, là, expliqué la situation. On prend l'autobus à tous les voyages qu'on fait. On est conscient du risque à chaque fois qu'on prend quand on sort en équipe, en autobus et tout ça. Puis bon, ça frappe l'imaginaire. Fait que c'était quelque chose de très. Très touchant pour nous. Puis la preuve de ça, c'est que cette soirée-là, j'ai appelé mon gars de régie, qui est aussi un monteur de vidéo. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? On a une game demain. Il faut absolument leur rendre hommage. Il faut faire quelque chose. Puis bon, on avait vu ce qui s'était fait aussi dans la Ligue nationale avec les équipes. Fait qu'on a monté une vidéo. On a passé pas la nuit, là, mais jusqu'à 4 heures du matin, on a fait du montage vidéo. On s'envoyait des vidéos d'un bord et de l'autre pour dire, OK, je veux telle affaire. Toi, tu rajoutes tel truc. Puis, fait qu'on était trois là en conférence téléphonique aux 30 minutes là, pour se pitcher des idées à qu'est-ce qu'on voulait faire, puis on voulait leur rendre un hommage à la hauteur de ce qui méritait les Broncos pour notre prochain match qui était le lendemain soir, si je me trompe pas, là, contre Moncton. On a discuté avec Moncton sur leur ouverture à faire une cérémonie avant le match aussi pendant les séries, à la Ligue aussi. Notre match était présenté à Sportsnet sur le réseau national. Fait que on voulait pas rater notre coup non plus en ce qui concerne la célébration des Broncos. Ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question aussi, parce qu'on se disait on veut pas non plus leur manquer de respect. T'sais, ils veulent-tu vraiment avoir des hommages de leur côté? Fait que c'est toujours un peu dans cette situation-là en particulier, c'était très touché là, en bon français de faire quelque chose, puis on voulait le faire comme il faut puis comme il méritait. Mais c'est jamais aussi difficile de faire quelque chose là, pour des occasions spéciales, des soirées spéciales que ce qu'on a fait pour les Broncos. Mm-hmm.
Au début de notre entretien, tu parlais un peu ton background côté journalistique, média. Là, maintenant, tu es traversé de l'autre côté. Tu travailles pour un club de hockey.
Ouais.
C'est comment gérer des médias? C'est quoi la relation que t'as, en fait, que l'équipe ou que même toi tu as avec les différents médias qui couvrent la formation? Là, tu disais, écoute, Sportsnet qui diffuse le match niveau national, c'est quoi l'impact de tout ça là, sur le travail d'un département de communication d'un club de hockey?
Mais quand les télédiffuseurs viennent faire des matchs à domicile, ben c'est toujours un peu plus pas compliqué. Ben, tu sais, ils nous envoient leurs demandes, ils disent bon, ben je veux placer des caméras à tel ou tel endroit. Fait que nous, il faut s'assurer que si ça cache les gens, par exemple, dans les estrades, ben faut s'ils ont déjà acheté leurs billets, faut les déplacer, faut leur expliquer la situation aux partisans. Sinon, ben faut replacer les différents sièges en conséquence. Mettons qu'ils placent une caméra, je te donne un exemple, Sportsnet, quand ils viennent. Quand il vient, ben Sportsnet met une caméra à la hauteur de la glace et nous enlève 4 bancs. Fait que ces 4 bancs-là, s'ils sont vendus, par exemple, soit des billets de saison ou des billets individuels, il faut quand même s'assurer que ces gens-là soient redéplacés dans l'aréna. Fait qu'il faut coordonner tout ça. Encore là, de la coordination, c'est pas mal nous qui la faisons dans le junior majeur. La même chose aussi en haut, mais pour l'instant, pour notre niveau, c'est ça. Faut s'assurer avec Sportsnet qu'ils peuvent placer leurs trucs adéquatement, qui ont les accès justement à tout ce qu'ils ont besoin. Faut leur faciliter le travail finalement. Faut leur donner tous les outils pour qu'ils puissent télédiffuser notre match sans qu'il y ait de pépins, sans qu'il y ait de problèmes. Le gars de la régie de leur équipe nous rencontre, nous dit parfait, je veux votre pacing de match, comment ça va se dérouler toute la soirée. Je veux savoir à quelle pause, qu'est-ce que vous faites. Fait qu'il faut vraiment coordonner tout ça avec l'autre équipe pour qu'ils soient au courant. Ils deviennent un peu les maîtres à bord, tu sais, quand ils arrivent, que ce soit TVA Sport ou eux, parce que nous, c'est les deux, ou ma TV encore, qui vient faire des matchs. Ils deviennent un peu les maîtres à bord, ils changent les pauses pour placer leur publicité aussi à la télévision. Fait que c'est toujours un peu plus demandant, si tu veux, là, quand ils se déplacent, parce qu'il faut leur permettre de bien faire leur travail. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui nous dérange plus qu'il faut là, dans notre job de communication.
OK. Puis pour les journalistes là, qui couvrent le match plus au day-to-day, même, tu sais, souvent, il y a des entrevues d'après-match, tu sais, cette couverture-là. Est-ce que c'est vous autres qui donnez les accréditations? Comment ça fonctionne? Puis le dispatch un peu des accès que vous offrez à l'équipe aux journalistes?
Ouais, on choisit. C'est sûr qu'il y a des journalistes, des médias qui ont des accréditations de la Ligue ou encore de la Ligue canadienne de hockey. Mais pour le reste, ceux qui sont locaux, c'est nous qui choisissons à qui on les donne. Fait que c'est à nous de faire notre travail de recherche puis de scruter un peu ce qui se passe sur le site web et tout ça. Puis la relation avec eux, je te dirais qu'elle est toujours bonne. T'sais, ils ont un travail à faire, on en a un aussi. Ils comprennent qu'on peut pas toujours tout leur donner. Par contre, c'est dans notre intérêt de leur donner toutes les informations qu'ils désirent avoir. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont plus compliqués, plus difficiles à dealer, là, en bon québécois, à gérer, parce que des fois, il y a des journalistes qui veulent parler de sujets que tu n'as pas nécessairement envie qu'ils parlent.
Ouais.
Fait que ça, c'est toujours un peu plus compliqué, mais tu sais, il faut toujours se rappeler, puis c'est dans mes bases de formation journalistique, là. Si un journaliste veut faire son travail comme il faut, ben il faut que le gars de com lui permet, ou la fille de com lui permette d'avoir tous les outils qu'il a besoin. Fait que moi, je me dis, s'il me pose des questions, c'est à moi de lui offrir les réponses. Tu sais, c'est un travail de, tu me poses une question, je peux te répondre ce que je veux, c'est sûr. Mais à un moment donné, si je veux pas te donner non plus des réponses qui vont te servir dans ton travail, ben, il me respectera plus, tu comprends? Fait que c'est un travail de respect entre les deux parties. Moi, je me dis tout le temps qu'il y a un job à faire, il y a un texte à écrire ou un topo à réaliser. Fait que il a besoin de cette information-là. Et on dépend de lui comme il dépend de nous. T'sais. Fait que c'est comme un retour d'ascenseur tout le temps entre les deux parties. J'ai jamais vraiment vécu de situation difficile avec un journaliste très marqué. Ça m'est arrivé, mais pas plus qu'il faut. Puis pour le reste, ben je pense qu'on est tous des humains, fait qu'on peut toujours se parler si on n'est pas content d'une situation ou d'une autre. Mais à la base, là, ce qui est important de se rappeler, c'est que j'ai un job à faire, puis lui aussi. Puis c'est important de respecter ça des deux parties.
Quelques petites questions un petit peu plus crunchées. OK, question de finir ça en beauté. Je veux que tu me parles de l'arrivée d'un gros joueur. Transactions, tout ça. Il y a 2 ans maintenant, tu sais, Pierre-Luc Dubois t'est débarqué avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, un premier choix de la Ligue nationale, tout ça. Est-ce que ça a un impact sur l'équipe des coms? Est-ce que vous modifiez les stratégies ou est-ce que quel impact que ça peut avoir sur l'équipe des coms?
Ben, quand tu sais la transaction, c'est encore mieux. Conseil à tous ceux qui travaillent dans ce milieu-là. Je te dirais, ça a un gros impact davantage avant que la transaction soit annoncée parce que ce genre de transaction-là n'est jamais caché vraiment longtemps. Hein, que ce soit Pierre-Luc Dubois, comme tu parlais, ou encore Drake Batterson l'année passée, nous, 5 jours avant que le championnat mondial junior ait été terminé, on le savait que ça venait chez nous.
Okay.
On le savait. On le savait parce qu'on l'avait entendu dans tous les médias. Moi, personne ne me l'avait confirmé. Puis moi, ben, j'avais la chance d'avoir le DG de Hockey Canada junior, justement, qui travaillait pour nous, qui était notre coach, directeur général, président. Fait, bon, il me parlait pas parce qu'il était occupé, il me l'avait pas annoncé nécessairement. Fait que je le savais parce que je l'avais vu sur les différents médias, les journalistes qui couvre le beat justement du junior majeur, mais ils l'avaient tous déjà sorti. Fait que c'est un travail beaucoup, c'est un travail en haleine parce que tous les partisans t'écrivent sur la page Facebook, sur le compte Twitter, ils t'envoient des pigeons voyageurs. Ils veulent tout le savoir. C'est-tu vrai que Batterson s'en vient? C'est-tu vrai que Dubois va être avec nous autres? Fait que c'est surtout avant, les journalistes t'écrivent, te disent, on peut-tu avoir des photos de votre nouvelle acquisition? On peut-tu avoir une entrevue avec lui? Hé, hey, il est pas chez nous encore.
Mais là, écoute, time out, là.
Oui.
Puis, tout... Je travaille moi-même en com, pas dans le même type d'organisation, mais je travaille en com, j'ai un background en médias aussi. Tu sais, on a un peu un parcours similaire, puis on a des fonctions assez similaires. Et une des affaires qui est les plus choquantes pour des gens de com, c'est quand une organisation prend des décisions sans avertir l'équipe des com pour pouvoir placer des pions, pouvoir répondre, pouvoir prévenir une situation. Puis là, tu me dis que, exemple, Drake Batterson, tu ne le savais pas, on ne te l'avait pas confirmé, tu l'as appris par les médias.
Ben, tu sais, je l'ai appris par les médias. Oui et non. Comme je te disais, moi, ça reste que j'avais quelqu'un dans mon organisation qui n'était pas avec nous à ce moment-là, tu comprends?
Mm-hmm.
Pour lui, il ne pouvait pas me parler. Lui aussi, il était dans un monde de championnat mondial junior.
Ouais.
Une médaille d'or à aller chercher, j'ai un travail à faire. Fait que c'est pour ça que je ne le savais pas. Je le savais, mais je ne le savais pas plus qu'il fallait. Est-ce que je reproche aux personnes? Pas du tout. Ça reste que c'est comme ça pareil. Pis c'est triste à dire, mais c'est comme ça partout.
Ah oui, mais je le sais, mais ça reste un vœu pieux que parlez-nous, bâtard, on va vous aider. On est là, on est dans le même team, là.
Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, des fois, c'est bon, c'est
ça arrive.
C'est ça, ça arrive, ça va vite. Puis, tu sais, j'ai eu la chance que je te dis de travailler avec Joël Bouchard, qui était très, très, très occupé, puis qui faisait des trucs avec Hockey Canada à cette époque-là. Fait que, tu sais, techniquement, là, une organisation chez nous ne peut pas annoncer une transaction avant qu'elle ne soit vraiment faite et qu'elle ne soit confirmée par la Ligue, si je me trompe pas, parce qu'elle pourrait être cancellé ou annulé.
Ouais, révoqué par la Ligue. Là, ouais.
Fait que, techniquement, c'est peut-être mieux que le gars des coms, ils le savent pas, tu sais. À un moment donné, il fait du somnambulisme, puis il tweet, Batterson s'en vient, puis il a même pas gagné à médaille encore, tu comprends? Fait que, moi, ça me dérangeait pas, mais ça reste que le travail était surtout en haleine parce que fallait répondre la même affaire à tout le monde pour dire... En fait, ne pas répondre du tout, presque, mais moi, je suis pas de ceux qui prennent le « je répondrai pas », je vais voir le message, puis, tu sais, l'armada a vu ton message, mais répond pas, c'est pas tant mon genre, fait que je répondais toujours « bonjour, monsieur, nous le savons pas », tu sais, je sais même pas ce que je disais exactement, là, mais c'était une réaction très, très instinctive du genre « l'organisation ne peut répondre à ce genre de questions, nous ne pouvons confirmer une transaction comme celle-ci, les joueurs concernés sont présentement, blablabla », tu sais, fait que, c'est surtout ça le travail de communication avant une transaction. Puis après la transaction, ben, c'est hyper facile. Là. Je me rappelle là, quand on savait que Drake Batterson allait jouer un match, je me rappelle j'avais fait une pub, Drake is in the house. Fait que c'était Drake va jouer, Drake va jouer, Drake va jouer. Les gens achetaient des billets pour Drake, les gens achetaient des billets pour Pierre-Luc Dubois. Fait que c'est vraiment de mettre en avant-plan ce joueur-là. Chez nous, à l'Armada, on n'est pas très, très fort sur le l'accent sur un joueur, parce que c'est très famille, très équipe, on est une équipe, l'Armada, t'sais. Mais ça reste que des fois, le gars de com, le gars de marketing, ou même le contrôleur financier ou le président dit, OK, là...
Ouvre les valves.
Ou c'est ça, ouvre les valves, Batterson va jouer, Pierre-Luc va jouer, Joël Teasdale va jouer. Quand on a su que Joël Teasdale avait signé à Montréal, la journée même de notre match d'ouverture, le 21 septembre, là, on s'entend-tu que c'est la première affaire que j'ai envoyée, moi, en communiqué de presse?
Mm-hmm.
Joël Teasdale va jouer ce soir, Portugal numéro 24, blablabla, blablabla. Bla, bla. C'était ma job de faire ça. Il fallait que je le fasse. Il y a des gens qui ont signé parce que Joël, à l'époque, il venait de signer avec le Canadien. T'sais. Fait que c'est ça, le petit monde du hockey junior. Puis la job de... Il y a des grosses transactions qui sont faites. Voici ce que j'ai à faire.
Mm-hmm. C'est quoi les relations avec les joueurs?
Une relation professionnelle. Moi, je suis de ceux qui prennent... je les aime d'amour. Ils m'aiment d'amour, c'est ce que j'espère. Mais ils savent que je suis pas leur ami. Je suis quelqu'un de l'organisation. J'ai un travail à faire. Il y en a un aussi. Je te dirais qu'on se respecte. C'est la base de toute bonne relation, tu vas me dire, là, mais c'est un grand respect. On n'est pas très loin en âge, hein, moi et eux. Fait que je mets toujours une barrière sur les choses qu'ils peuvent me dire ou que je peux entendre. c'est parce que moi, je veux pas que je suis en administration. Fait que je vais en entendre des affaires dans le bureau des coachs des fois, puis il faut pas que ça sorte. Fait que, c'est un gros travail de respect puis de confidentialité entre ce que les joueurs vont me dire des fois, ce que les entraîneurs vont dire que je vais entendre ou qu'ils vont me dire. Ou t'sais, fait que c'est, la relation avec les joueurs est très bonne. Elle se doit d'être très bonne. Il faut qu'ils me respectent, il faut que je les respecte. Puis après ça, ben c'est on fait ce qu'on a à faire, puis on... Je te dis, je les aime d'amour. Là.
Ouais, l'avantage, c'est un peu comme un prof au secondaire. Les jeunes gardent toujours le même âge, mais toi, tu vieillis, fait que l'écart s'accentue.
Exact. T'as compris, effectivement. Mais, faut que je te dise, là, très franchement, là, que ce soit dans le junior 3 ou dans le junior majeur, quand les joueurs de 20 ans partent, là, moi, je suis un gars émotif. Hein. Fait que quand mes petits gars de 20 ans, ils partent, là, et là, là, c'est difficile. Quand ma première année, là, la première année, Montembeau, le gardien de but qui est avec les Panthers de la Floride actuellement, quand Montembeau est parti, quand Beaudoin est parti, le capitaine de l'Arvada la première année, puis quand TJ Melançon est parti, là, je me rappelle, on avait perdu en 4 en finale contre St. John, puis les trois dans la chambre, là, on s'était serrés dans nos bras, puis on pleurait, puis c'est plate, là, tu bâtis une relation avec des gens, des jeunes hommes, puis des jeunes hommes, tu sais, avec des hommes, puis ils quittent, t'y reverras plus ou presque pas, tu sais, à part l'été quand ils vont venir s'entraîner parce qu'ils repartent dans leurs équipes professionnelles ou encore chez eux parce qu'ils viennent de loin. Fait que c'est toujours difficile. Fait que moi, je t'avoue que ce bout-là est tough.
Mm-hmm.
Quand je les vois partir. Quand Alain est parti l'année passée, puis qu'on a été éliminé encore une fois, quand Paquette Bisson est parti, je trouvais ça vraiment plate. Puis ils savent, tu sais, je les vois avant de partir, puis je leur donne la main, puis un câlin, ils sont d'approche. Puis c'est dur, là, ce genre de relation-là pour eux. C'est comme une séparation, finalement.
Mm-hmm. Business. Le hockey, ça demeure une business. Tu es au sein d'une business, d'une organisation, et tu ne contrôles pas 100% de l'environnement. Il y a l'aspect hockey, on en a parlé en long et en large, mais il y a l'aspect business. Et depuis maintenant, ben, vous entamez une deuxième saison, il y a un autre club dans le Giron, dans le patelin. Mm-hmm. Avec le Rocket de Laval, et en plus, là, le coach a quitté. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous autres à l'Armada?
Il y a de la place. T'sais, j'entends souvent les gens dire que c'est un compétiteur ou quoi que ce soit. On a les deux le même service, c'est vrai. On offre du hockey, mais c'est pas la même chose. Eux offrent le hockey de la Ligue américaine. Nous, on offre le hockey junior. Je pense que les partisans ne sont pas les mêmes de ce type de hockey-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont préférer le hockey de la Ligue américaine parce qu'ils sont affiliés à une équipe de la Ligue nationale. Puis il y en a d'autres qui vont préférer le hockey junior parce que ce sont des jeunes joueurs qui sont encore aux études, oui. Puis dans la Ligue américaine aussi, il y en a encore qui sont aux études. Mais c'est des jeunes joueurs qui jouent encore pour démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont encore un objectif qui est de signer un contrat professionnel ou d'être repêché. Fait que c'est pas le même genre de hockey. Oui, on est à quelques kilomètres, c'est vrai, mais tu sais, chez nous, ça a rien changé pour l'instant. On se bat pour les mêmes foules. On veut garder le même nombre de... En fait, on va toujours fixer le même nombre d'assistance parce que c'est ça qu'on veut minimum à chaque match. Ça a rien changé pour nous, pour être franc avec toi. Et honnêtement, je suis content parce que les partisans ont plus de choix sur ce qu'ils veulent aller voir, sur ce qu'ils veulent sur avec quoi ils veulent se divertir. Puis, tu sais, je vais dire honnêtement, je chez nous, là, notre billet minimum est à 12$. Okay? 8$ pour les enfants et 12$ pour les adultes dans les sections 100 et 118. Okay? Fait que moi, à 12$, là, mon compétiteur le plus près, c'est pas vrai que c'est le Rocket. Mon compétiteur le plus près, là, c'est le bowling. C'est le cinéma.
Effectivement.
C'est le cinéma, OK? Fait que moi, là, t'as le goût d'aller voir l'Armada ou t'as le goût d'aller voir Anna Kendrick dans son nouveau film parce que c'est ça que je suis allé voir la semaine passée, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Là. Oui, c'est le même sport, OK? À part être le même sport, là, c'est deux offres complètement différentes pour les partisans. Puis tant mieux, les gens de la Couronne Nord de Montréal ont plus d'opportunités, ont plus d'ouverture sur leur divertissement. Puis je suis content pour eux autres. Est-ce que j'ai déjà été voir le Rocket? Oui. Est-ce que le Rocket est déjà venu voir? Oui. Fait que c'est ça. C'est deux mondes différents, j'ai vraiment l'impression. Puis on est tous là pour le bien de notre organisation, moi pour l'Armada, eux pour eux. Fait que je les salue bien haut, puis je leur souhaite la meilleure des chances.
Est-ce que tu peux me parler de mascotte? Moi, c'est un univers qui me fascine. Puis je sais pas, tu sais, il y a un aura, il y a une magie derrière ça. Je sais pas ce que tu peux me dire, ce que tu peux pas me dire, mais si tu as des anecdotes, des affaires de même, moi, je serais vraiment heureux que tu me parles de mascotte.
On s'entend que...
D'ailleurs, on vient de voir, tu sais, au moment d'enregistrer, oui. Là, on est le 26, la mascotte des Flyers de Philadelphie, Gritty, là. Wow! Mais pas dans le bon sens.
Ben là, as-tu vu là, ce qu'ils ont sorti aujourd'hui? Une brasserie qui... Pas une brasserie, mais un brasseur là, qui sort
ouais,
une bière.
Oui, avec une bière, ouais.
Le Nightmare Fuel. Ouais, il l'appelle le Nightmare Fuel. Je trouve ça très drôle.
En tout cas, c'est pas le meilleur design, mettons.
Non. Il y a plein de jokes qui sont sortis. Là. C'est Yuppie sur l'acide, plein ouais, d'affaires comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est merveilleux faire une mascotte. Quand je te disais tout autre temps, je connais. Il y en a qui aiment pas ça. Moi, je suis un enfant quand je vois des mascottes. Je trouve que c'est un cachet unique pour une organisation. C'est une image extraordinaire. Tu sais, moi, ma job, c'est de protéger l'image de l'Armada. Ben, tu sais, la mascotte, c'est justement un premier contact avec les enfants pour l'équipe. Fait que c'est quelque chose de très magique, comme tu le dis, mais aussi de très discret. Hein? Fait qu'il faut pas trop en parler. Je me rappelle, il y a un média qui nous avait approché il y a quelques années, ben, il y a 2 ans, pour faire un reportage sur les mascottes. Et j'ai dû m'asseoir avec le reporteur, ma mascotte, que je nommerai pas naturellement. Ben oui, Amiral, mais pas la...
Hein? Ouais, pas le doute dedans.
C'est ça. Et on s'est assis les trois, puis on a dit, on est à l'aise d'embarquer dans ton projet. Les Alouettes avaient embarqué, le Phoenix de Sherbrooke avait embarqué, l'Impact avait embarqué. On est à l'aise à des conditions très strictes. Et il fallait cacher la voix, il fallait pas voir le visage, il fallait le voir en action, il fallait pas le voir telle affaire. Fait qu'il voulait mettre un micro en dessous du costume. C'était non. C'est plein de petites barrières comme ça qu'on avait mis, mais ce monde-là est un monde très caché et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement, comme tu le dis, magique. Je pense que c'est le plus beau des qualificatifs finalement pour ça. Mais c'est extraordinaire. Moi, je honnêtement, là, une mascotte, je pourrais plus m'en passer. Honnêtement, si un jour je travaille plus dans le hockey, je m'en loue une juste pour les...
Le gars, il organise des parties d'enfants juste pour avoir l'occasion de contacter des mascottes. Puis,
Exact, puis il invite pas d'enfants, juste des mascottes.
Non, c'est ça. Ah, c'est ouais, des mascottes. Moi, mon plus merveilleux souvenir de baseball, je dois avoir, écoute, 6-7 ans. On va, mon oncle m'amène aux expos et on passe par la boutique de souvenirs avant la game, tu sais. Puis, il me propose de m'acheter une balle autographiée par tous les joueurs. Non, moi, j'ai pris une balle des expos vierges et je descends dans les astrates pour aller voir Youpi faire signer ma balle. Et, comble de malheur, j'avais pas pensé à avoir un stylo. Fait que là, Kemang d'entrée de pleurer à tout le monde. Y'a-tu quelqu'un qui a un stylo? Et Youpi a finalement été en mesure de me signer ma balle. Quel merveilleux souvenir. C'est gravé à vie dans ma mémoire. C'est ça, les mascottes. Hein?
Mais et c'est souvent, tu sais, mettons, les enfants. Moi, mon filleul a 3 ans, OK? Et mon filleul me dit... Il vient voir l'Armada, mais il me dit tout le temps quand je dis « T'aimes-tu ça, l'Armada? » Il fait « Amiral! » Tu sais, lui, là, son souvenir de l'Armada, c'est pas si on a scoré 5 buts ou si on a perdu 7-1. C'est « Amiral, es-tu venu le voir? »
Ouais, ben
ça,
oui.
C'est ça le lien entre les plus jeunes et l'organisation, c'est la mascotte.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose de magnifique.
Ouais, on a déjà eu une discussion. Tu sais, des fois, on jase un petit peu, tu sais, le marketing, tout ça. Tu sais, les portes closes. Puis là, moi, je te disais, vous devriez avoir une deuxième mascotte. Amiral, il est trop tout seul. Je considère encore que ce nom de mascotte-là est génial. Puis je suis triste que vous ne l'ayez pas fait. Moi, je veux un capitaine. Capi, thème. C'est un jeu de mots qui est incroyable. Bateau, capitaine, hockey, le C, tout est là, c'est magique. Capitaine!
Tu sais que c'est encore sur la glace, hein?
Ben, je le sais, mais là, c'est
là,
dit.
On l'a perdu avec la boucane du premier match, là, mais on va la retrouver.
Moi, je rêve à la version de couple amoureux de amiral, c'est capitaine.
C'est où qu'ils ont ça? À Drummondville, ils ont ça. Les Voltigeurs ont deux mascottes.
Ah ouais?
Il y a tir au but, puis...
Puis il manque le... Non, je ne sais pas s'il s'appelle de même, mais ce serait un sale beau duo.
Ah non, mais le nom m'échappe, mais il y a deux mascottes, il y a une femme et un homme, c'est magnifique, c'est un beau concept, c'est vrai.
Ouais, bon, en tout cas, puis en fait, n'importe quel club avec une thématique de bateau, là, je pense que c'est le nom parfait. Bon, Nicolas Thibault, coordonnateur communication, marketing et événements chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. J'aime ça dire ton titre au grand complet parce que ça fait tellement comme professionnel, puis ça fait on n'est pas tant des chums. J'ai comme mis une distance en mettant ton titre, j'adore ça. Nicolas Thibault, merci beaucoup de ton passage sur la POC cette semaine. C'était une belle aventure, c'était bien bien le fun de voir les dessous de cet emploi-là dans l'univers du hockey. Merci d'être venu sur l'émission.
Merci à toi de l'invitation, c'est un grand plaisir. Et quand tu veux, je te parle de mascotte anytime.
Yes! À vous les auditeurs, je vous remercie d'avoir été du rendez-vous. C'était JB Gagné pour le show, la POC. Puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Bye bye tout le monde!